Star Wars en direct remercie ses partenaires Mint in Box, Planet Star Wars, Star Wars Universe, le groupe Star Wars Geeks Québec, la boutique Kaya et la convention Génération Star Wars et Science-Fiction.
Eh bien, bonsoir tout le monde, c'est Sylvain pour Star Wars en direct, pour vous faire une petite critique assez rapide, parce qu'on a encore sorti de gros sel, hein, parce qu'il ne faut pas déconner, donc des épisodes 12 et 13 de la saison 3 de The Bad Batch, alors qui s'intitulent « Pouvoir destructeur » pour l'épisode 12, et « Dans la faille » pour l'épisode 13, et je suis ce soir accompagné de Karl. Ça va, Karel?
Ça va, très bien, et toi? Ça va?
Ça va. Je vais baisser un peu, voilà. Ouais. Bah, a priori, il est tellement tôt qu'on est encore tout seul, il n'y a personne qui nous fait coucou. Donc, bah, c'est bien, on va vraiment sortir la sulfateuse et mettre un peu de gros sel là-dessus. Karel, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de cette saison 3 Elle est bientôt terminée, parce qu'il reste encore deux épisodes, et après, on en aura fini, définitivement. Sauf que c'est encore du Filoni. Donc, vous inquiétez pas, ils vont tous nous les ressortir. Donc, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de cette saison 3 de Bad Batch?
Je reste un petit peu sur ma faim. Pour être honnête, après je passe pas de mauvais moments à regarder en fait. Salut Xar, mais je pour moi elle m'accroche pas en fait assez. Souvent genre on arrive mercredi, j'oublie que c'est l'épisode, c'est le jour de l'épisode quoi. Et ouais, je sais pas. En fait, il y a des choses que j'aurais voulu qu'il développe, qu'il développe pas. J'aurais voulu profiter un peu plus d'Assage Ventress et en fait non, pas vraiment. Donc voilà, je sais pas. Après, je veux juste avoir la fin de la saison pour vraiment avoir une vue d'ensemble, si tu veux. Donc pour l'instant, j'ai pris plus mon pied peut-être dans certains épisodes de la saison 2, quoi. Ou même à la fin de la saison 1 avec Topeka City, etc. Et là, j'ai pas l'impression qu'il y a déjà 13 épisodes qui sont passés en fait.
C'est l'un des reproches de cet épisode, de cette saison. Ah, on a J. MacLeon qui nous a rejoint. Coucou à toi. Et bon, on va attaquer dans le vif du sujet bientôt. Parce que on n'a pas que ça à faire. Hein. Alors, l'épisode 12, donc qui s'appelle Orio, comment déjà
Je sais, en anglais c'est Juggernaut, mais je sais plus ce que c'est en français.
Pouvoir destructeur.
Voilà. Pas trop compris.
Pouvoir destructeur.
Que c'était l'espèce de gros tank, de gros camions, les Hummers de l'espace là.
Alors c'est pas le même. J'ai vérifié. A priori, c'est pas un Juggernaut qu'on voyait dans l'épisode 3.
En tout cas, c'est le nom de l'épisode.
Un tank, un turbo tank. A priori, c'est un turbo tank. Je crois AA9. Donc c'est tout pareil, mais a priori les roues sont plus petites.
Ah, ça mais, c'est le genre de détail que j'ai pas capté, je t'avoue moi.
J'avais pas capté du tout. C'est en tombant sur Twitter, un spécialiste montrait la différence. C'est pas non plus le même véhicule qu'on voit dans Rogue One.
D'accord.
Dans ce superbe épisode Juggernaut pouvoir au destructeur, qu'est-ce qu'on voit déjà? On voit enfin Marissou Omega arriver sur dans la base secrète Champignon, là chez Super Mario Maléfique. Donc elle refait connaissance avec ses petits avec ses geôliers médecins super copains. Il lui prélève son sang. Le docteur Frankenstein en chef lui explique oh oui j'ai pas retenu les noms et j'ai pas envie. Hein. Même si je trouve que le médecin est le personnage le plus intéressant de toute cette saison-là.
Et Marie, Et Marika, ou tu parles de l'autre de...
Ah, celui qui parle avec une voix de méchant à l'ancienne.
Ah, c'est Enloch.
Parle avec une voix. Ouais, voilà, lui. Oui, c'est ça, là. C'est... Oula. Donc, il lui explique, en fait, ce qu'on... Enfin, il explique à Marisu Omega que tout ce que nous, on avait déjà compris depuis 126 épisodes, ce serait bien qu'ils enclenchent la deuxième. Parce qu'il y en a marre de répéter 40 fois les mêmes choses. Parce qu'on n'est pas des débiles non plus. Donc, il lui montre ses nouveaux appartements de princesse. Ils refont une énième picouse pour vraiment être sûr que ce coup-ci, ça marche bien. Elle voit les autres petits-enfants qui n'ont toujours qu'un seul jouet chacun.
Ils sont un peu tièpes, les pauvres bébés, quoi. Ils font un peu tristouilles, quoi, les pauvres.
Ah oui, non, mais c'est... Je veux bien qu'ils soient maintenus en détention là-dedans pour les examens, mais... À part, tu leur fais faire une ou plusieurs picousses par jour, mais là, ils tiennent pas un mois. Hein. Ils virent tous en dépression, ils se pendent avant la fin du mois, les gamins. Comment tu veux les maintenir en vie? Si t'as pas l'intention de les maintenir en vie, tu les mets dans un presse-agrumes, tu récupères la pulpe, et puis voilà, s'il y a que le sang qui t'intéresse. Donc,
en fait, c'est con, mais c'est le détail qui m'a un peu tué, c'est qu'ils ont même pas de couverture. À chaque fois
que j'avais vu
se lever, je me suis dit, mais elle doit cailler, enfin, je sais pas. Ils ont pas de couverture dans l'Empire, c'est pas possible d'en avoir, surtout pour
les... Ouais, non, mais il y a vraiment que dalle de chez que dalle, il y a même pas un oreiller sur le soleil. Ils ont un jouet ou un truc par personne, et ils sont mis là-dedans sur surveillance. Ils sont mis sous surveillance H24. Voilà, il y a Marisu qui essaye encore de dire à sa nouvelle grande sœur que non, mais t'as pas besoin d'être si méchante, tu pourrais nous aider parce que le pouvoir de l'amitié, de l'amour et du son des clones, tout ça, ça s'arrête là pour Marisu Omega. Et de l'autre côté, on a les trois mousquetaires ou les pieds nickelés, je sais pas trop, qui se décident à. Et qui se décide à enfin à peu près agir, c'est que à agir comme des soldats et se dire en fait, faudrait peut-être qu'on sache où ils l'ont emmené la gamine et faudrait peut-être se grouiller parce que là, sinon, elle va finir dans le presse-agrumes, ma mère. Donc, grâce à Crosshair, qui a toujours la tremblotte, qui dit que peut-être il y aurait, lui, il connaît un moyen de savoir quelles sont les coordonnées de la planète, je sais plus trop quoi là, je m'en fous, Tantris, oui. Et il se dit que tant qu'à faire, il y a peut-être notre ancien copain là, le vice-amiral rampant, rentemplant là, qui est dans les geôles impériales, et si on allait le récupérer? Ils se disent, on a que ça à foutre encore d'aller récupérer un ancien personnage qu'on n'avait pas vu depuis une saison.
J'avais complètement oublié son existence. Hein. Quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit, c'est qui lui ? J'ai complètement oublié.
Moi, c'est pareil. Et encore une fois, comment ce mec-là est au courant des coordonnées de cette planète dont personne ne connaît l'existence ?
Encore, il ne la connaît pas. Il fallait aller à un endroit où...
Oui, voilà, mais en fait, il sait qu'elle existe, il sait ce qui s'y passe, mais il ne connaît pas. C'était dans le secret des dieux, tu connais tout, ou alors tu finis avec une balle dans la tête parce que c'est l'Empire au bout d'un moment. Hein.
Ou alors, il faut croire que les vice-amiraux, ils n'avaient pas non plus toutes les infos, quoi. Surtout pour un projet ultra secret de l'Empire.
Ouais, voilà, non, mais c'est encore un truc à la Filoni. Ah, c'est le grand chef qui... Oui, je crois que c'est ça. C'est la base, c'est le mont Tantis. Donc la grosse base, c'est le mont Champignon. Et la planète, c'est Welland, parce que Welland, clin d'œil, Alien, Predator, tout ça.
Okay.
Les trois pieds nickelés, là, ils prennent d'assaut une mine impériale pour aller chercher le petit vice-amiral déchu. Et il décide de se barrer de là en prenant le véhicule le plus discret du monde, donc un turbo-tank / juggernaut. Donc, c'est un gros parpaing avec 18 roues. des gros canons dessus, des lance-roquettes multiples sur les côtés, et puis après d'avoir récupéré le pépère un gros coup de tarte dans la gueule, ils décident enfin de faire comme des commandos, c'est d'avancer tout droit et de décharger tout l'armement qu'ils ont, et là ça pète, c'est marrant, ils font du speed jump sur un... Ils font comme Fast and Furious, ils font du jump avec le Juggernaut, ils défoncent des portes.
Ils font du lance-rempart aussi.
C'est ça, ils défoncent des portes, ils défoncent des murailles blindées qui font même pas la taille du Juggernaut, donc on se demande bien ce qu'elles sont censées arrêter, ces saloperies.
Ils coupent pas contre la paroi aussi.
Ouais, ça c'est marrant. Et puis à mon avis, ceux qui sont en dessous. Donc ils arrivent à récupérer le rempart, ils montent dans un vaisseau, ils se barrent de la mine, et là, leur rempart leur explique que, alors non, il connaît pas les coordonnées, mais il sait où on peut les trouver. Puis tiens, ma bonne dame, ce serait bien que vous fassiez un truc pour moi, puisque vous avez besoin de moi vivant. Et là, je me demande, ça montre bien que Filoni n'a aucun sens ni du spectacle, ni du scénario. À quel moment il n'y en a pas un qui lui pète les deux genoux?
Parce que c'est pas pour les enfants.
Non, mais je m'en fiche. À un moment, Star Wars, l'Empire contre-attaque, était tous gamins. On voit le début de la séance de torture de Han Solo. On l'entend hurler. C'est pas. Et puis le film d'après, on a des Ewoks. Donc les gamins, ils sont pas stupides. Il n'y a même pas une petite tartounette dans la gueule pour leur mettre à sa place. Rien, nada,
pozob. C'est les héros, ils ne vont pas commencer à péter les phalanges des gens, quoi.
Mais si. On les casse en deux. En plus, oui. C'est un impérial, c'est un ancien nazi. De base, le nazi, on tape dessus, point. Donc bref, l'épisode se termine comme ça, les trois pieds nickelés ont récupéré le vice-amiral Rantanplan et décident donc d'aller quelque part pour avoir les bonnes coordonnées, slash trouver un vaisseau, slash s'amarrer quelque part, piquer encore un truc pour aller récupérer Marissou Omega. Fin de l'épisode 12. Qu'est-ce que t'en as pensé ?
Bah, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que en fait, ces deux épisodes-là, j'ai eu vraiment l'impression de deux épisodes où on avance des pions en vue de la fin de la partie, quoi. Et du coup, c'est juste une avancée de pions. Donc c'est à la fois important parce que s'il n'y avait pas ça, tu sais pas comment ils iraient d'un point A à un point Z. Mais en fait, en tant que tel, juste à se mettre ça sous la dent une fois par semaine. C'est un peu maigre, quoi. Je pense que toi, t'étais peut-être content parce que Omega, elle est peut-être apparue, 20% de l'épisode et on a eu droit.
J'aurais vu, on la met que à l'intro, et puis tout le reste, c'est des clones qui font des trucs amusants. Mais je me suis plus marré avec l'évasion à coup de Juggernaut, l'évasion la moins discrète du monde. En fait, ça m'a rappelé le délire de Han Solo sur Andor, qui fait un peu n'importe quoi et qui arrive. C'est ce grand guignolesque Star Wars que j'aime. Parce que leur mission d'infiltration, elle est aussi à chier que n'importe lequel. Mais le grand guignolesque du final explosif à grand coup de Juggernaut là sur en plus le pont, c'est comme dans les films, tu sais, t'es deux bagnoles qui font vroom vroom et qui sont dans une ruelle à peine plus large qu'une seule bagnole et qui sont l'une sur l'autre,
c'est la scène d'action, quoi.
Ouais, c'est le seul truc qui m'a un peu enthousiasmé parce que te dis la relève Rempart qui la première scène où on a Rempart, le mec te dit que il comprend pas ce que l'extraterrestre en face de lui sort. Et trois secondes après, le mec, le rempart lui répond comme s'il avait compris la phrase que le gars venait de sortir. À un moment, soyez un minimum logique. Je veux bien que les mecs portent des casques. Alors, je pars du principe que les gars, même si nous, on entend leur propre voix, les casques traduisent, ok. Alors, pourquoi, à partir du moment où rempart, il n'a plus son casque sur la tête, il répond au gars qui est en face, qui lui parle dans une autre langue. C'est bourré de... C'est encore une fois, pour moi, il y a plein de conneries incohérentes. Pareil pour la présentation de son nouveau palais à Ahsoka. Le médecin démoniaque lui réexplique une 12e fois. Parce que ce truc-là, on a dû nous l'expliquer une fois ou deux par épisode. On est à l'épisode 12. On a compris, les gars, on a compris où vous vouliez aller, avancer, quoi. Et ouais, moi, c'est une cellule pour dépressifs, ça. C'est pas. Il y a rien. C'est des gamins. Je veux bien que ce soit l'Empire. C'est les méchants, tout ça, tout ça. Mais s'ils ont besoin de ces gamins pour leur expérience, prenez-en un minimum soin. Parce que là, ils tiennent pas un mois, hein, ce rythme-là. Il y a un jeu par personne, ils ont le droit de parler à personne, il n'y a rien dans leur chambre. Je dis, ils vont se pendre avec leurs vêtements. Hein. Il y en a qui se...
C'est carrément un bébé, quoi. Donc,
ouais, voilà. Il y a que dalle. En fait, c'est tellement froid que j'y crois pas. C'est tellement froid, tellement aseptisé, ouais, que j'y crois pas une seule seconde. T'as des gamins qui ont un peu de pouvoir. On l'a vu avec le bébé, là, qui, sans le vouloir, balance un truc. Mais à quel moment, lui, il leur donne exclusivement du Xanax pour bouffer ou quoi? À quel moment, ne serait-ce que le petit bébé là qui s'emmerde, il n'envoie pas l'une des tables valser dans les baies vitrées en haut? Donc non, c'est lent, c'est chiant. C'est chiant, et puis on nous réexplique une 40e fois, on nous remonte des trucs qu'on a déjà vus avant, et il nous remonte le truc, il nous le réexplique l'épisode d'après, donc à part, je te dis, à part la scène du Juggernaut et leur saut en Juggernaut, le reste, c'est chiant comme la pluie. Ah oui, mais... Alors, Philippe J, déjà, bonsoir. Je reviens là sur Andor. Merci de m'y faire penser. Je reviens pour l'épisode d'après ça. Et toi, Karel, qu'est-ce qu'on a pensé? Dis-nous tout.
Cet épisode-là, en fait, m'a fait l'effet d'un. C'est comme si c'était un morceau d'autre, enfin, d'un truc plus large et plus complet, en fait. C'était vraiment. J'ai vraiment eu. Ça aurait été plus logique qu'il fasse partie genre d'un épisode, enfin c'est d'un double épisode en fait, qu'il y ait quelque chose où t'es un début, un milieu, une fin, une résolution, tu vois. Et là, on a vraiment un côté, on est juste en transition, on est juste de passage vers le prochain épisode, quoi. Après, cela dit, comme je te disais aussi avant qu'on prenne le live, c'est que cet épisode-là, je l'ai regardé la semaine dernière quand il est sorti. Et en fait, il m'est passé, mais complètement à côté. J'étais pas concentrée, je faisais autre chose en même temps. Et je pense que j'ai juste vu, surtout peut-être un peu au début, un peu quand ils vont jouer avec le Juggernaut, là, et à la fin. Et en fait, j'ai absolument rien capté de cet épisode, quoi. Tu m'aurais demandé qu'est-ce qui s'est passé dans cet épisode, je sais pas. Et du coup, là, pour cette émission, je l'ai re-regardé. Et là, j'étais plus dedans. J'étais plus. Attentif, quoi, et je l'ai plus apprécié, je l'ai plus compris, entre guillemets, mais j'ai quand même cette sensation de d'épisode qui est juste transitif, quoi, qui est juste, comme je disais, pour avancer les pions, il fallait qu'ils récupèrent un moment rempart pour aller à l'autre étape d'après, quoi. Et ce qui fait que en général, t'es satisfait quand t'as un épisode où t'as vraiment, enfin, un peu résolutif, quoi. Tu sais, qu'il résout un problème qui a été qui a été ou présenté avant ou des épisodes avant ou au début de l'épisode, tu vois. Donc c'était une sensation de satisfaction.
D'avancement, quoi.
C'est ça. Et là, j'ai un peu l'impression que on est juste sur une perle du collier, tu vois. Et donc voilà, c'est un peu un côté qui est pas fini, qui est donc je peux juste le juger en tant que épisode qui fait partie d'un tout, quoi, tu vois ce que je veux dire, et pas juste la qualité intrinsèque de cet épisode-là.
Je trouve que cette critique, je l'ai aussi, comme tu disais, on n'avance pas, on est à l'étape 12 pour aller encore plus loin, et j'ai l'impression que c'est toute cette série. C'est, on fait un truc qui va nous permettre de faire un truc, qui va nous permettre de faire un truc, qui va nous permettre de faire un truc, qui va nous permettre de faire un truc.
Et même si tu me demandes, résume la saison 3, tu dirais quoi? Tu dirais Omega, elle se fait choper, et puis après, elle s'échappe, ils vont sur Paris.
Et puis elle se refait choper. Il y a des gens qui meurent. Il y a des gens qui meurent pour essayer de l'aider, mais ça sert à rien. Elle se refait choper. Et la Bad Batch va essayer de la re-secourir, machin.
Et là-dessus, tu rajoutes le M-count, là, les midi-chloriens, que personne ne dit exactement ce que c'est, parce que, bon, voilà. Mais toi-même, tu sais.
Oui, mais c'est ça, en fait, qui me dérange le plus dans cette là-dedans. C'est qu'on sait très bien de quoi ils veulent parler. Mais ils ne le disent pas explicitement parce que, à mon avis, je pense que s'ils essayent réellement d'expliquer, ça va partir en sucette parce qu'ils vont devoir sortir les rames et nous, on va être là à les attendre avec les pelles, les fourches, les pieux et les torches. On va dire, mais arrêtez vos conneries, c'est tout pourri, vous avez essayé de faire compliquer. Vous avez voulu de faire tellement compliqué que c'est du grand n'importe quoi et que, encore une fois, vous essayez de ramer pour attraper les scénarios de Gigi alors qu'il n'y en a pas réellement besoin.
Ce qui me gêne en plus avec ce N-Count, c'est que ça fait vraiment un clin d'œil aux fans, enfin, clin d'œil à toi à travers l'écran, quoi. Parce que, comme tu dis, c'est pas vraiment expliqué. Il te dit juste que ça a à voir avec... Tu sais pas trop quoi, en fait, en vrai. Ils en ont juste besoin, parce que ceux qui ont beaucoup de M-count, ils en ont besoin pour une expérience. Mais en fait, tu sais, parce que tu as suivi, tu sais, parce que tu sais faire les liens entre ça, entre les clones, entre Palpatou, tous les trucs, quoi. Mais il y a rien de cohérent à l'intérieur de l'œuvre, quoi, tu vois, à l'intérieur de t'expliquer, en fait, ou alors peut-être que c'était un truc que seuls les Jedi étaient au courant et que ça a été perdu avec la chute des Jedi, enfin, tu vois, je sais pas, je sais,
ouais,
pas,
non, mais, c'est...
Mais en fait on en a aucune, quoi, et c'est juste un clin d'œil aux fans qui savent, comme il me dit plus rien, t'as vu, je sais, je connais la ref, quoi, tu vois, et
ouais mais ce qui... Ce qui est assez marrant, alors effectivement, Dany dit que Asajj a mentionné Omega, que le M-Count est relié à la Force, effectivement. Mais ce qui est assez marrant, c'est que là, cette année, on est sur les 25 ans de la menace fantôme. Je vous rappelle que quand George il a sorti l'explication des midi-chloriens dans ce film-là, on a tous gueulé. Donc là, ils essayent de brosser un truc sur l'utilisation des midi-chloriens avec la Force, avec le clonage, avec Snoke, avec le retour de Palpatine, de Mephès, de les clones de Grogu, les clones de ceci, ils essayent de tout assembler, et en fait, je sais pas toi, mais moi, le taux de midi-chlorien, je m'en tape. Karel? Ah.
C'est bon.
Ah, que ma box avait planté.
C'est bon.
Bon, bref, le tout, enfin, en tout cas, le M-Count, on sait où ils veulent en venir. Et je trouve que c'est ridicule tellement ils y vont tout petit et sans avancer réellement et en n'y allant pas franchement et en répétant 40 fois la même chose.
Bah, en fait, tu as un peu l'impression qu'ils veulent garder une espèce de suspense autour de ça, une espèce de mystère, tu vois.
Ouais, mais c'est un faux suspense.
Il est assez mal amené.
Ouais, c'est un faux suspense. C'est comme essayer de dire, tu regardes le film Titanic et tu dis, oh, est-ce que le bateau il va couler à la fin? À un moment, mec, tu fais un film, tu fais un film dans un bateau, tu dis pas que le bateau il s'appelle Titanic, mais ça fait 40 images qu'on voit. Des bouées de sauvetage qui commencent tous par TI à un moment, gars. Donc bon, je trouve qu'ils en font trop là-dessus. Mais bref. On va passer à l'épisode 13, dans la faille.
Dans la faille.
Ouais, dans la faille. Ah ben ça, il y en a plein des failles. Alors, toujours, c'est découpé en deux. On a d'un côté les pieds nickelés qui essayent donc d'échafauder un plan pour aller sur la planète Welland au Mont Tantis, et de l'autre, Omega qui nous fait une Steve McQueen en nous préparant la grande évasion. Donc ça fait à peu près 2 minutes 50 qu'elle est dans les locaux, et elle sait déjà comment se barrer.
Il y a des ellipses, t'es une mauvaise foi, il y a des ellipses.
Non, parce que les gars, ils ont récupéré... Non, pour moi, il n'y a pas d'ellipse. Mmh. Ou c'est des ellipses de quelques heures. Parce que les trois loustiques, là, ils sont avec le vice-amiral, qui est encore en costume de bagnard. Ils sont dans leur même vaisseau. Ils partent directement. Ils élaborent leur plan pour aller au-dessus de Coruscant, à une base spatiale, pour piquer des coordonnées ou suivre un vaisseau, ou s'amarrer, en tout cas, un vaisseau qui va au Mont Tantis. Là, c'est très bien. Il y a de l'infiltration, même si, pareil, hein, ça manque de claques dans la gueule à Rempart pour le remettre à sa place. Là aussi, et puis, t'es gentil, hein, le coup du... On a repeint nos armures. Cool. Mec, il manque une pièce sur deux, et les pièces que vous avez rajoutées, c'est du tissu turquoise. Moi, je veux bien que le reste des armures soit noir, mais quand même. C'est turquoise, ou c'est rouge, ou c'est jaune et marron. Arrêtez de prendre les gens pour des cons.
Ils font un peu tâche quand ils passent pas non plus super inaperçus, quoi, mais ils font... Voilà. Ils sont un peu suspects, même s'ils font des efforts pour passer inaperçus, quoi.
Ouais, mais... Ils passent inaperçus. Luke et Anne passaient plus inaperçus dans des costumes de Stormtroopers à leur taille que les zigotos. Le seul qui a une armure complète, quand même, c'est Crosshair. Tous les autres, il manque les jambières, les brassards ou les épaules. Je veux bien que parce que c'est l'autre. Et puis l'amiral qui gueule parce que. Ah, mais j'étais vice-amiral, quand même, je vais pas mettre un costume de capitaine. Mais je te dis, ça manque de tarte dans la gueule. C'est pas de coup de pied au pied. Si, j'ai un peu aimé le coup de pression qu'il met au lieutenant. Mais encore une fois, c'est un truc assez classique et qu'on voit très souvent dans les missions d'infiltration, dans les missions impossibles. Hein, tu l'as, ou Ethan se fait passer les bras. Ouais, respect de la... Ce qui est toujours marrant là-dedans, c'est quand même... Oui, mon général, je vous laisse passer. Le mec revient trois minutes après, quand il n'y a plus personne. Au fait, là, votre vaisseau, il n'est pas bien immatriculé. Inspection de... Non. C'est... Et puis le mec, il vient toujours tout seul. Alors, il y a du bon, mais il y a du ridicule. Oui, comme le dit Danny... pour obtenir le code dans la salle de contrôle, oui, ça rappelle New Hope dans le centre de détention. Et c'est encore plus le bordel que dans New Hope. Encore une fois, il y a des trucs.
Ça m'a fait sourire quand on part, il faisait ah, genre, oh, ça m'avait manqué, dis donc. Genre,
ah oui, oui, oui.
C'était un peu à son sous-fifre.
Ouais, mais ça, c'était marrant, c'était bien. Il y avait un peu d'infiltration à la cache-cache avec des clones. Soit dit en passant, dans The Clone Wars, dans Rebel, on n'a jamais vu les clones troupeurs, les clones commando. Là, Filoni, il s'est lâché avec les commandos. Il n'y en a jamais eu autant que dans toutes les séries réunies. Il les a mis à toutes les portes. dans tous les vaisseaux. Ils sont que là.
Bah, ce sera sans doute une des dernières fois qu'on verra les clones et tout ça, non ? Parce que a priori, à part s'ils refont une énième série encore dérivée. Oh,
t'inquiète, hein. Ah, mais moi je l'attends, hein, l'annonce le 4 mai d'une future série qui prendra la suite de The Bad Batch.
On m'a fait transmettre des annonces de recrutement d'animateurs pour les prochaines séries animées Star Wars, donc c'est qu'il y en a qui vont être faites, je veux dire, mais tu vois, on a pas pour l'instant de projet de...
Et ils ont pas besoin de scénaristes, parce que tu leur donnes mon nom, hein, je vais les aider.
Écoute, a priori, si déjà ils demandent des animateurs, c'est que les scénaristes sont déjà faits, hein, ils sont déjà validés, hein.
Bah, en regardant cette saison 3, je suis pas sûr. Hein. Au moins, ils ont besoin de quelqu'un relise.
Du coup, c'est à se demander si justement il y aura d'autres séries à cette époque-là sur les clones ou quoi, ou si cette période-là, ils estiment qu'elle a été vue et c'est bon, quoi, tu vois. Donc là, c'est la fin de The Bad Batch qui était le spin-off de Clone Wars, qui était le spin-off de l'attaque des clones.
Ouais, mais ils vont nous faire un. Ils vont nous faire un spin-off sur Rex et ses clones qui essayent de sauver d'autres clones. et qui vont retrouver... et puis, il y aura la série spin-off sur Omega... sur Omega, quand elle sera adulte, quand elle sera adolescente, et puis quand elle rencontrera Grogu, quand elle sera la mère de Grogu. Donc, il y aura tout un tas de conneries. Hein. Donc, tiens, en reparlant de Marissou Omega. Ouais, son mode la grande évasion, encore une fois, mais c'est du magnifique. Donc, elle vole un outil sur un plateau, donc personne ne voit. Elle le cache dans sa manche. On nous montre bien, parce qu'elle sort le truc de sa manche. On n'en voit rien, parce qu'on est trop débile pour avoir compris qu'elle pitié un outil. Mais moi, ce que j'adore dans cette scène, c'est que la porte des chambres, il n'y a pas de porte, justement. C'est un trou, que les chambres, elles sont en face de la baie d'observation sous tous les gens qui les surveillent, et qu'elle, elle est assise sur son lit qui est en face de la porte. Donc, elle est pile dans l'axe de vue de tous les gens qui la regardent, et elle pique ce truc, personne ne la voit. Elle arrive à ouvrir le mur avec sa clé à molette, là, son outil... son outil qu'elle a volé, et donc super, hein, t'as besoin de faire passer une fiole de sang grande comme ça, mais tu me fais un trou grand comme ça, digne de laisser passer John McClane. Elle va demander en 2 heures, elle a échafaudé son plan pour s'évader, hein, donc dans le meilleur des mondes, tous les gamins seraient abattus à grands coups de sabre laser ou tir laser, parce que faut pas déconner. Mais non, allez, moi je mets sur mon billet, elle arrive à partir, à s'évacuer toute seule avec les autres gamins. En partant, elle demande à sa grande sœur. Il y a sa grande sœur médecin de se joindre à eux parce que c'est une clone et puis que il y a pas de raison. La grande sœur se sacrifie, Crosshair se sacrifie aussi. Tout le monde se barre. Fin de la série et patati et patata.
Mais est-ce que ça c'est un truc que je me suis posé la question parce que elle est de plus en plus confiante, etc. Elle prend les devants et tout ça, mais est-ce qu'elle n'aurait pas eu une espèce de formation de clone, parce que bon bah c'est un clone, tu vois. Mais que est-ce que genre dans leur conception, préparation, machin, on sait qu'Omega elle est un peu à part, qu'elle n'a pas été programmée comme les autres, mais est-ce qu'elle n'aurait pas eu une espèce de baby programme des clones pour avoir justement ce genre d'initiative un peu militaire, tu vois?
Non, moi,
pour moi, c'est que c'est une suggestion, puisqu'en fait, on n'a aucun indice qui...
Non, moi, c'est le programme Marissou qui l'ont intégré, qui l'ont mis de base. Hein. C'est... Non, mais je rigole, mais en fait, non, parce que je crois même pas que ce soit ça. C'est juste qu'elle est... Elle est construite pour ce qui ne lui arrive rien, de toute façon. Elle doit s'en sortir, quitte à sacrifier tous les autres. Parce que elle, son pouvoir, c'est l'amour. C'est le pouvoir de l'amour, le pouvoir de l'amitié qui change les gens. Donc, non, c'est pas une programmation militaire, c'est juste qu'elle est écrite avec les pieds, quoi.
C'est difficile de voir.
Non, parce que c'est. Elle arrive quelque part, 2 minutes et demie, elle sait déjà. 2 minutes après, elle sait déjà les codes de sécurité, quoi piquer, ouais, pour ouvrir quelle porte.
Elle sait où sont les conduits, où vont les robots, machin, etc.
Voilà, et puis encore une fois, les conduits pour les robots, ils sont de la taille pour laisser passer un gamin. Oh bah ça tombe bien, c'est une prison pour gamins qu'ils ont fait. Il n'y a rien ni fait ni à faire. Elle nous fait son plan à coups de Lego au milieu de l'unique table de la salle. La salle est blanche, les Lego ils sont multicolores. La table est au milieu avec les grandes baies vitrées où il y a encore une fois tout le monde qui les squatte en permanence.
Il faut croire qu'ils doivent regarder des choses pas très catholiques sur leur...
Ouais, je sais pas, ils sont nubilés par des pornos gamoréens, mais... c'est pas possible. Et puis bon, donc elle élabore son plan, elle va mettre en place nos petits commandos et puis bon, l'épisode se finit avec les G.I. Joe là qui ont réussi à avoir alors non pas les coordonnées hein, parce que sinon ce serait trop facile, mais ils ont réussi à infiltrer Echo dans une navette qui part au Mont Champignon. Et donc, Echo, à l'intérieur, désactive les capteurs de proximité pour que Hunter, qui est à bord de la... et les autres soldats, puissent s'amarrer en toute discrétion à la navette pour faire le voyage, comme un poisson pilote. Sur un requin baleine, mais c'est vraiment toute discrétion hein. À aucun moment personne n'entend les 4 patins électromagnétiques qui vont se coller à la coque. Il n'y a aucun capteur de pression, il n'y a rien qui utilise le poids, il n'y a personne qui regarde par la fenêtre à ce moment là pour voir très exactement une petite navette venir se coller.
Ils n'ont pas de rétro.
Il n'y a pas de rétro, il n'y a que dalle. Il y a des détecteurs de mouvement ou d'un détecteur d'une console qui est activé à l'intérieur de la soupe du vaisseau qui s'allume, mais on n'en voit qu'un seul gars et t'inquiète, il suffit qu'il dise ok, tout va bien pour que on n'en parle plus. Ouais, alors il y a de la tension sur le final parce que est-ce qu'ils vont réussir à s'amarrer avant que le vaisseau passe en hyperespace, oui ou non. Et même là, il y a Rampant qui dit aboard the mission, mais là, il y a comme là, pas une petite tartinette, un petit revers de la du droit par vrai tiers dans les naseaux. Ouais, boum, comme ça, tais-toi, laisse faire le copain. Non, rien, nada, podzob. C'est l'épisode se passe comme ça. Et se termine comme ça, sur ce mini cliffhanger un peu à la concombre. Tiens, ça m'y fait penser. Je revenais sur. Attends, c'est où? Qu'est-ce qu'il a fait? Oui.
Sur le plan d'évasion.
Ouais, le plan d'évasion d'Omega. Moi, je regarde en VOST. le film, les séries ou les films, ouais. Elle nous a sorti un One Way Out. Tu sais, c'est... Puis bien cadré, face caméra, c'est... Il n'y a qu'une seule, une seule issue possible. C'est... Je suis sûr qu'ils ont utilisé ces termes-là pour essayer de reprendre la hype de Andor à ce moment-là. C'est pas... J'y crois, mais à... j'y crois à mort.
Je n'avais pas capté quand elle a dit, mais moi, tu le dis.
Si, elle dit « one way out ».
C'est pas anodin, quoi. Oui.
C'est clairement pas anodin. Pour moi, ils ont essayé de piquer. Parce qu'en plus, c'est tellement...
Bah, c'est encore un wink-wink, quoi.
Ouais, clin d'œil à la Wiggum. C'est... Voilà, c'est... C'est même pas une ref à ce niveau-là. Elle te dit ça, mais vraiment face caméra, il y a qu'elle à l'écran, il y a du blanc tout autour d'elle. Elle te dit ça, one way out. C'est même comme Philippe J. C'est pas de la ref là, c'est vraiment du foutage de gueule.
Alors du coup, qu'est-ce que t'attends des deux derniers épisodes ?
La mort d'Omega, mais je crois que je peux m'asseoir dessus. honnêtement, j'attends que ça se finisse. Parce que, alors peut-être que mon jugement sera changé quand il y aura les deux épisodes finaux là, mais j'ai envie que ça se termine. En fait, je trouve ça long. C'est l'histoire globale n'avance pas. Le personnage d'Omega et son histoire ne m'intéresse pas. C'est con à dire, mais c'est même pas comme par exemple le Docteur Aphra où je trouve que je lis quelques trucs, quelques histoires dessus, mais je trouve que le personnage de Dr. Aphra n'a pas de raison de vivre dans cet univers, ne serait-ce que dans son premier arc scénaristique. Elle l'a fait à l'envers 5 fois de suite à Dark Vador. Comment c'est possible de rester vivant à ce moment-là? Mais après, qu'elle vive ses aventures de son côté, je m'en fiche, je laisse les gens, coucou Lane, si tu passes par là, qui aiment ce personnage, tant mieux. Tant mieux pour eux, moi je passe. Mais vraiment, pour Omega, c'est même pas que je m'en fiche, c'est que ce personnage-là n'a, pour moi, absolument aucun intérêt. Ça ne... je veux même pas en entendre parler, en fait. On est au-delà joue avec tes persos là c'est vraiment, pour moi, toute la série The Bad Batch est inutile. Elle est, pour moi, c'est vraiment inutile. On a eu des fausses révélations, on a eu des faux trucs, des faux moments d'émotion sur la destruction de Tipoca City. On a eu des faux, mais on tourne en rond. On essaye de nous raccorder des bouts avec des idées, des histoires dans les films dont on est tous passés à autre chose, mais eux, ils ont besoin vraiment de tout nous raconter parce que sinon, encore une fois, je trouve que ces bouts d'histoire sont illogiques. C'est Vador qui va tomber sur les vaisseaux, sur les Super Star Destroyers à Exegol 3 mois après la destruction de la première étoile noire. Merde, quoi. C'est con. Qu'est-ce qu'ils foutent avec ces vaisseaux destructeurs de planètes perdu au milieu de la galaxie pendant 75 ans. Le projet nécromancien, je m'en cogne, mais comme d'une chaussette. Ça aurait été beaucoup mieux de laisser, parce que oui, Danny le dit, ça a l'air de... On sait que ça risque de pas marcher, puisque...
Puisqu'ils ils sont à la recherche.
Ils continuent, voilà, ils continuent 40 ans après avec Grogu. Donc, on essaie de faire des plans de... en fait, on essaie de nous sortir la carte du... tout était prévu 75 ans à l'avance. Ouais, mais c'est le pour problème.
Que, du coup, ça, je trouve que ça, si en effet il close pas quelque chose de satisfaisant à ce niveau-là, oui, ça aura un effet de pétard mouillé parce que on sait que tout ce truc-là sera voué à échouer, quoi. Enfin, je veux dire, dans ce cas-là, quel est l'intérêt quel est l'intérêt d'avoir peut-être un truc qui enfin ouais qui fait
un pétard mouillé, c'est ce que Terra Design nous dit, quoi. On les voit pas dans les suites. Il y a pas d'attachement particulier à ces persos là et en plus de ça, on sait que leur histoire ne va pas servir a servi que pour expliquer les débuts du projet Necromancer. On s'en tamponne. C'est fallait nous faire un roman de 100 pages ou des BD et puis basta, quoi.
Alors si c'est vraiment ça, c'est vraiment dommage, quoi, parce que je suis sûr qu'il y aurait eu du potentiel pour faire des trucs vachement plus intéressants et qui nous auraient encore un peu plus accroché au personnage, quoi, parce que là en fait c'est un peu difficile entre Omega qui a pas vraiment d'arc narratif, enfin. Après, ça peut être aussi un choix d'avoir un personnage qui est tout le temps le début, enfin le même du début à la fin, ok, c'est un choix. Mais bon, du coup, ça.
Ouais, mais c'est un choix.
Un goût d'inachevé. Les clones, ils apprennent un peu à se sortir les doigts et puis à penser peut-être à autre chose qu'à eux-mêmes, quoi, tu vois. Mais on n'a pas.
Ouais,
pas
mais ils tournent en boucle. Regarde Rex, Rex, Echo et d'autres clones qui vont sauver des clones.
La Bad Batch qui
perd ses membres les uns après les autres, mais qui passe, qui se sacrifie tous en fait pour Omega, parce que ça peut être ça aussi. Hein. Ils y passent tous pour sauver Omega, et puis après Omega, elle devient quoi ? Qu'est-ce qu'on on laisse ça comme ça ? C'était ça les trois saisons là ? Les super commandos qui se sacrifient pour une les uns derrière les autres pour une gamine dont plus rien à carrer après.
Celle qui va être l'espèce de mémoire des clones, j'en sais rien. Moi, j'avais espéré qu'il y ait un lien avec Boba, mais en fait, là, je vois pas le truc venir non plus, tu vois. Donc, je sais pas trop où est-ce qu'ils vont aller pour ces deux derniers épisodes. Le seul truc qui... Enfin, je sais pas si ça me fera rattraper tout, tu vois, mais ils ont... Faut leur reconnaître que la fin de la saison 1 et la fin de la saison 2 étaient assez marquantes, que ce soit entre Typo Cassidy et puis ce qui arrive à Tech, par exemple. Ils avaient réussi à faire des épisodes qui étaient prenants, quoi, tu vois. Du coup, là, j'ose espérer que la 3, ils finiront avec quelque chose de marquant, quoi. Mais voilà, quand tu regardes dans l'ensemble, bon, qu'est-ce que tu garderas de tout ça, je sais pas.
Des armures un peu cool dans la saison 1.
Oui, voilà.
Le reste, c'est pas le reste, pas grand chose en fait, parce que encore une fois, c'est Omega m'intéresse pas. L'existence d'Omega et son histoire.
La façon dont ils l'ont traité, la façon dont ils l'ont fait qu'elle aurait pu être plus intéressante que ça. Hein. Elle aurait pu être plus attachante, plus.
Mais clairement, là, elle est.
Mieux développée.
C'est bon. Oui, c'est ça. Là, il lui arrive plein de trucs assez graves et elle en a. Les trois tiers du temps, elle en a rien à carrer. Il y a des gens qui meurent autour. Il y en a des gens qui meurent autour d'elle. Elle fouine pendant 5 minutes et dès qu'elle a un nouveau pote, une nouvelle créature ou un nouveau personnage, mais t'es gentil, toi, tu veux être mon ami. Et ça finit invariablement pour lui péter à la gueule. Et elle change pas d'un iota. C'est Déjà qu'il y en a qui râlent, parce que Superman reste toujours ce grand con en pyjama bleu avec son slip rouge par-dessus. Mais pour Omega, moi, je trouve que c'est pareil. C'est juste une gamine chiante qui ne me donne pas l'impression d'évoluer ou d'apprendre de ses erreurs, parce qu'elle en fait des erreurs. Mmh. Et non, rien, elle a les mêmes relations avec les gens, et elle réussit tout.
Elle peut avoir un optimisme à toute épreuve, quoi. C'est comme ça qu'elle
je trouve que c'est pas une bonne idée. Et peut-être que c'est parce que c'est l'adulte de 40 ans qui s'en est pris plein la gueule tout au long de sa vie qu'il le dit, mais je trouve que c'est pas un bon exemple. Si encore une fois on me sort l'argument de oui, mais c'est pour les enfants, faut les rassurer, faut les ceci, faut les cela. Non, moi je trouve que c'est pas une bonne c'est pas une bonne façon de faire. Je vous dis pas de les mettre devant Cannibal Holocaust à 5 ans et demi. Ni même de voir l'histoire sans fin, sinon vous allez les traumatiser avec les chevaux.
Ou le tombeau des lituels, encore pire.
Ouais, voilà, mais à un moment, faut être un petit peu. Il y a un juste milieu, tu peux pas faire qu'un personnage. Pour moi, Omega, c'est vraiment un personnage qui pourrait traverser de nuit un champ de mine à cloche-pied et les yeux bandés et s'en sortir sans aucune égratignure. Alors que tous les autres qui ont fait pareil se sont tous fait sauter, et elle sort de là, c'est cool, allez, on recommence. Non, quoi, c'est... Moi, c'est ça qui m'embête avec cette série, avec ce personnage.
Ouais, en tout cas, c'est bientôt fini.
Ouais, plus que 2 épisodes et on en a fini. On a...
Donc a priori, c'est ça, il y a un épisode la semaine prochaine et un autre dans 2 semaines, c'est ça hein.
Ouais, c'est ça.
Et qui seront du coup tous les deux traités par la team québécoise, si je dis pas de bêtises.
Ouais, a priori, okay. Ouais. Oh non, je sais pas. Non, Dani, non, pas ça, On va voir Omega adulte joué par une jolie actrice dans le film The Mandalorian et Grogu. Ouais, le problème, c'est que la seule actrice...
Et puis ils vont faire un média,
le problème, c'est que c'est une clone. D'accord ? Donc la seule actrice qui peut jouer une clone, c'est Temuera Morrison. J'ai pas spécialement envie de voir Temuera Morrison avec des couettes blondes. Je veux bien qu'il joue Boba dans un film, mais avec un vrai réal et un vrai scénariste pour enfin rendre... honneur à Boba, mais non, pas qui ne joue pas au média, là, faut pas déconner. Donc, voilà, hein.
On a fait le tour.
On a bien mis du gros sel sur les plaies. Et alors, qui c'est qu'on a sur le forum? On a Philippe J. J. MacLeon, on a Danny, on a Alucard qui est encore là, j'imagine, on a Créa, Terra Design, c'est eux, ils nous ont accompagnés. Escar est parti faire dodo parce qu'il n'avait pas vu l'épisode d'aujourd'hui. Les enfants, c'était Karel et Sylvain pour la critique des épisodes 12 et 13 de The Bad Batch saison 3.
Et n'oubliez pas de mettre des pouces sur la vidéo.
Ouais, mettre des pouces bleus sous les vidéos. Mettez-vous sur nos réseaux sociaux. Et Léo, la petite, parce qu'on a changé nos réseaux sociaux. Hop, donc voilà, sur Facebook, c'est Star Wars en direct podcast. Sur Sord et Instagram, c'est SW en direct. Et sur Blue Sky... c'est swendirect.bsky.social. Les amis, on va se dire bonsoir. Bonsoir Karel, bonsoir le public.
Bonne soirée tout le monde. Bonsoir Sylvain, et puis bah.
Je la force avec vous. Bisous.